La revue de presse, Frédéric Pommier.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Nicolas et bonjour à tous. 1807 jours. Si l'on calcule bien, c'est dans 1807 jours que Notre-Dame devrait être reconstruite, du moins si l'on se fie aux prédictions très ambitieuses du président de la République, lequel table sur une fin des travaux dans 5 ans. Objectif peu crédible selon de nombreux experts, sans doute cela prendra-t-il davantage de temps, mais dès lors, et même si ce n'est pas dans 5 ans, à quoi pourra ressembler la cathédrale? Ce matin, le Parisien nous présente 10 photos, 10 projets fous pour Notre-Dame, et les clichés franchement sont assez fascinants. D'abord, parce qu'il nous montre l'édifice restauré. Ensuite, parce qu'il témoigne de la fantaisie parfois déconcertante des designers et des architectes contemporains. Souvent, dès le lendemain du drame, l'incendie de la cathédrale, ils ont proposé leurs idées sur les réseaux sociaux. Ce sont ces idées qu'on retrouve dans les pages du journal. Un cabinet dijonnais préconise ainsi de créer une toiture vitrée, une verrière sous laquelle les touristes pourraient déambuler. Un autre propose que ce soit la flèche qui soit en verre afin d'apporter une lumière zénitale dans la nef. C'est magnifique, a commenté un internaute, mais un autre a fait part de sa perplexité. Si la Joconde était détruite, est-ce que tu la repeindrais en lui ajoutant un piercing au nez et une décoloration platine? La modernité interroge, comme avec le projet de ce designer parisien. Lui entend remplacer la flèche par une femme géante comme un buisson ardent ou la représentation de l'Esprit Saint, confie-t-il. Plus spirituel encore, avec cet Italien qui veut édifier la toiture et la flèche en vitrail, un écolo lui suggère de replanter la forêt de l'ancienne charpente sur le toit. Certainement moins cher, dit-il, que de la refaire à l'identique. Moins cher encore peut-être, représenter la flèche par des faisceaux lumineux. Il s'agit du projet d'une agence d'événementiel formidable de nuit. Oui, vraiment formidable, mais évidemment de jour, ça ne donnerait absolument rien.
Et d'autres photos sont à découvrir dans les pages de Society.
Et là encore, elles interrogent notre modernité, en pointant rien moins que la dinguerie de l'époque. Des histoires de photos publiées par des internautes sur Instagram. Le site regorge de clichés spectaculaires, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est sans doute l'absurdité du comportement de celles et ceux qui les ont pris. Exemple en Norvège, où les Instagrammeurs se précipitent en nombre pour faire des selfies du haut d'un rocher de 700 mètres surplombant un lac. Le lieu, il y a 10 ans, attirait en moyenne 500 visiteurs chaque année. Désormais, on en compte plus de 100 000 et la plupart de ces nouveaux touristes n'arrivent pas au bout des 10 heures de randonnée nécessaires pour atteindre le sommet. En conséquence, les secours sont absolument débordés. Il y a aussi le cas de la rue Crémieux à Paris, jolie rue parsemée de maisons colorées, mais les riverains n'en peuvent plus. Des blogueurs et instagrammeurs qui l'envahissent pour se photographier devant les façades. Et puis, à Lake Elsinore, une petite ville de Californie du Sud, là ce sont les collines qui sont prises d'assaut. Parce qu'il pousse des coquelicots. Une floraison extraordinaire en ce début de printemps. Résultat, les routes sont parfois bloquées pendant des heures et les accidents de voitures se multiplient sur les réseaux sociaux. Une réalité idyllique, dans les faits, un cauchemar pour les habitants. En somme, deux façons de raconter l'histoire. Et ceci nous amène au récit de l'affaire de la Pitié-Salpêtrière.
La fake news venait de l'intérieur.
C'est le titre à la une de Libération ce matin. Non. Contrairement à ce qu'a affirmé Christophe Castaner, l'hôpital parisien n'a pas été pris d'assaut et dégradé par des manifestants le 1er mai. Non, il n'y a pas eu d'attaque. Les vidéos et les témoignages publiés ces 24 dernières heures ont infirmé la thèse du gouvernement. Et comme cela fut dit dès hier soir sur France Inter, les manifestants qui ont pénétré dans l'enceinte de l'hôpital souhaitaient se protéger des gaz lacrymogènes lancés par les forces de l'ordre. Le quotidien analyse l'emballement politique, l'emballement médiatique autour de cette histoire, l'interview de la directrice de l'hôpital qui évoque des gestes violents et menaçants, les ministres qui s'indignent, Martin Hirsch qui confirme, et une dépêche de l'AFP qui évoque, je cite, une attaque de dizaines de militants d'ultra-gauche Black Bloc. Moi-même, j'ai cité les mots de la directrice et ajouté un commentaire qui, maintenant qu'on connaît le déroulé des faits, paraît bien déplacé. Pense sur les doigts, mea culpa, mea maxima culpa. Ce matin, les médias en prennent pour leur grade, de même que le ministre de l'Intérieur, photo de Christophe Castaner à la une de la Marseillaise, l'intenable mensonge, ce qui donne sur Mediapart les mensonges du pouvoir.
Et ce sont d'autres scandales qui sont dénoncés dans la presse féminine.
Le scandale d'un médicament, l'androcure, c'est-à-dire dans Grazia, Trois Françaises victimes de méningiome portent plainte contre le laboratoire Bayer qui le commercialise. Ce médicament serait à l'origine de tumeurs au cerveau. Le scandale de l'excision en Russie, c'est à lire dans Cosette. En plein centre-ville de Moscou, des cliniques privées proposent des clitoridectomies pour les femmes et les fillettes. Depuis qu'un média russe a révélé l'affaire, elles se font plus discrètes, mais l'excision continue là-bas d'être un business. Est-ce cela la modernité? On s'interroge et on se console à la lecture de la Dépêche du Midi ce matin qui nous fait le portrait d'un jeune Toulousain qui s'appelle Thibaut, il a 22 ans. Et il vient de se qualifier pour la finale d'un concours mondial de lancer d'avions en papier. Ce week-end, lançons des papillons. Des avions en papier, et tant pis si c'est pas moderne.
Merci Frédéric.